Bonjour à tous, bienvenue dans l'économie en VO, notre magazine sur la web TV, la bourse et la vie.com. Cette semaine, on va évoquer bien sûr à nouveau les suites du G20 et puis on va parler également de financement des PME, d'entreprises de croissance avec nos invités cette semaine. Yves Maillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des investissements et de la gestion actions chez Robeco Gestion. On verra avec vous ce qu'on peut dire de ce G20 qui apparemment n'a pas donné beaucoup de choses pour les investisseurs, en tout cas n'a pas rassuré forcément les investisseurs. Et puis nos deux invités, donc Daniel Carutis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partenaire également de cette émission, il faut le rappeler. Et puis vous êtes le président du directoire donc, de la Banque Palatine. On verra avec vous ce que vous avez fait un plaidoyer pour les entreprises de croissance en cette période un peu difficile pour les PME. On verra pourquoi vous avez fait ce plaidoyer. Et puis Christian Poyot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Micropole et on verra avec vous également. Vous avez été dans une autre période président de Croissance Plus. Vous avez beaucoup donc évoqué ces sujets pour les entreprises. On verra si les entreprises de croissance en bourse ont également de l'intérêt. Alors, on va commencer avec vous, Yves Maillot, parce que ce G20, visiblement, a été perturbé. Certains ont dit pollué par la situation en Grèce, avec effectivement les derniers événements. Qu'est-ce qu'on peut en tirer quand même? Est-ce que finalement, il reporte à nouveau un certain nombre de décisions du point de vue des investisseurs?
Malheureusement, on ne peut pas en tirer grand-chose. En tout cas, je pense que les marchés ne vont pas en tirer grand-chose de très positif. Si ce n'est de nouveau quelques très bonnes intentions, nous sommes dans un monde où on voit l'urgence de parler d'une seule voix, d'augmenter la coopération au niveau des politiques économiques. Donc je dirais que le message principal positif que l'on peut tirer de ce G20, c'est la nécessité d'accroître ces coopérations. Il a été dit et on a insisté sur le fait que les économies qui disposent d'une dynamique de croissance un peu plus favorable, qui disposent de comptes équilibrés, fassent en sorte que leur demande interne soit un petit peu motivée de façon à permettre aux économies chancelantes ou à compte très déséquilibré de se tirer un petit peu de ce marasme. Voilà, mais il s'agit d'intentions. Pour le reste, un certain nombre de points ont été évoqués, mais encore une fois, aucune mesure concrète n'a réellement été prise. Et les marchés attendent maintenant des mesures concrètes, car nous sommes aussi dans un monde où le temps ne joue plus en notre faveur.
C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'annonces, on les rappelle, au mois de juillet, après il y a eu ce qui s'est passé sur les marchés financiers, à nouveau ce plan, ce G20, mais on a encore du mal à voir comment la Grèce va se sortir, par exemple, de sa situation d'endettement.
Oui, parce qu'elle a d'abord un problème politique. Il y a d'ailleurs en amont des questions qui se posent, à savoir est-ce qu'on peut continuer à assurer une pérennité de la présence d'un État dont les finances, manifestement, n'ont que très très peu de chances de se rétablir dans le contexte actuel, mais on continue à évoluer dans un schéma où effectivement la Grèce ne sortirait pas de la zone euro. Et il semble que les choses soient de plus en plus compliquées au quotidien à gérer en Grèce. Donc c'est vrai que la Grèce a focalisé les attentions lors de ce G20. Pour revenir d'ailleurs sur les principaux points traités, on peut parler de du rôle du FMI qui évidemment va croissant. Alors le FMI va disposer ou doit disposer de moyens supplémentaires. On sait très bien qu'un certain nombre de pays dits émergents, mais qui sont des vrais pays de croissance et qui sont en général des pays au compte excédentaire, vont plus participer au FMI à l'avenir. Ils le demandent en contrepartie. On voit bien là les enjeux de pouvoir et un petit peu le balancement du monde au niveau géopolitique. D'ailleurs, à cette occasion, on a un pays dont la dette est très très importante en termes de poids, qui est l'Italie, qui est mis sous surveillance, sans qu'on sache d'ailleurs pour autant quelles vont être les mesures concrètes et l'attitude concrète du FMI concernant l'Italie.
Est-ce que ça veut dire que c'est le plus mauvais scénario qui est en train de s'installer, c'est-à-dire celui que certains investisseurs évoquaient il y a déjà quelques mois en disant il y a un risque de contagion et après la Grèce, effectivement, d'autres États, les fameux PIGS, sont en jeu, c'est-à-dire que chaque État au fur et à mesure va être sous surveillance. On parlait des taux d'intérêt sur l'Italie en ce moment qui sont très élevés.
Malheureusement, je serais un petit peu contraint de dire que oui, on est sur un schéma qui ressemble un petit peu à un schéma, en tout cas si ce n'est catastrophe, qui enchaîne les mauvaises nouvelles. Alors le cas de l'Italie est très inquiétant, il est très différent de la Grèce. L'Italie est un pays, il faut le rappeler, dont les comptes, le solde primaire est équilibré, voire positif. C'est la charge de la dette et évidemment, qui pose problème, évidemment, dans un contexte où la méfiance, la défiance augmente, les taux d'intérêt montent jour après jour sur les emprunts d'État italiens et renforcent ce mécanisme pernicieux d'emballement, sachant que la dette publique italienne est la troisième plus importante au monde. Donc là, on a affaire à un problème réellement très aigu, très différent du problème de la Grèce, qui a une refonte complète de son système de gestion à revoir très rapidement maintenant.
Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement dans ce contexte-là? Parce qu'on a bien vu qu'il y avait des risques pays, du coup, qui s'étaient installés pour l'investisseur. Aujourd'hui, il ne peut plus évacuer ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va trouver des endroits sûrs pour investir?
C'est de plus en plus compliqué, effectivement. Ce sont des éléments qui créent des distorsions en termes de flux de capitaux de plus en plus fortes. Ces distorsions veulent dire qu'il y a des déplacements de capitaux de plus en plus accrus vers ce qui fait figure de valeur refuge. Principalement, au moment où nous parlons, les emprunts d'État américains et les emprunts d'État allemands, poussant les taux d'intérêt toujours plus bas sur ces emprunts souverains et créant quelque part, on peut le craindre, un phénomène de bulle. Évidemment, cela se faisant au détriment des dettes souveraines sur lesquelles la méfiance augmente, voire la confiance disparaît totalement, et au détriment, malheureusement, je dirais, des actifs qui créent la valeur économique à long terme, que sont l'investissement dans les capitaux propres des sociétés. Donc on a quelques valeurs refuges qui focalisent la majorité des flux de capitaux, des placements d'ailleurs qui révèlent la grande frayeur des investisseurs, comme les métaux précieux, l'or, et puis en termes de dette souveraine, les emprunts des grands États les plus puissants ou les mieux gérés.
Daniel Carotti, je me tourne vers vous, le banquier ici présent. Ça vous gêne ce nouvel environnement de taux, ce nouvel environnement de marché? Ça vous gêne dans le quotidien?
Pas, c'est plus que gêné. Je pense que le terme est un peu faible. Ça nous contraint dans notre activité au quotidien parce que le problème de la crise telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est qu'à l'heure où on parle, on n'en voit pas la sortie. Elle est d'ailleurs très différente de la crise que nous avons connue en 2008. Crise très difficile qui a touché d'abord principalement le secteur bancaire et financier. Mais 4 mois, 5 mois plus tard, avec bien sûr des initiatives qui avaient été prises par les banques centrales et les États, nous avons trouvé des voies de sortie. Aujourd'hui, la situation est très différente, parce qu'on voit bien que nous sommes confrontés à la montagne des déficits publics de l'ensemble des pays européens, et même au-delà d'ailleurs de l'Europe, et on voit bien qu'il faudra du temps, beaucoup de temps en réalité, pour faire en sorte de revenir à une espèce d'équilibre. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de clignotants qui sont plutôt à l'orange, pour ne pas dire au rouge, et donc c'est assez compliqué. En tout cas, c'est ce que nous disent aussi les chefs d'entreprise, que nous avons l'occasion, que j'ai l'occasion de côtoyer au quotidien. Donc oui, il y a quand même aujourd'hui un climat d'incertitude. Il y a des voies pour en sortir, peut-être qu'on pourra bien sûr les aborder, mais aujourd'hui, c'est vrai, avec l'épisode grec, la dramaturgie grecque de ces derniers jours, avec aussi la pression qu'il y a sur l'Italie, on peut dire quand même qu'au mois de novembre 2011, c'est quand même, la situation est un peu compliquée à gérer.
Christian Poyot, chef d'entreprise, cette situation, comment vous la vivez au quotidien? Vous voyez des clients qui sont un peu attentifs, vous avez, ou dans votre domaine, société?
Écoutez, pour l'instant, nous on a des clients dans tous les secteurs d'activité, oui. Donc vu de ma fenêtre, je veux dire, j'ai à peu près une vision sur, mais qui reste au niveau de Micropole, évidemment, mais il n'y a pas d'affolement de la part des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas très vigilantes et elles suivent le dossier de manière très très vache. Mais il faut bien voir qu'il y a une dichotomie énorme entre macroéconomie et microéconomie. Hein. Les entreprises au sens large, grandes ou moyennes, peut-être que les toutes petites c'est beaucoup plus dur, mais depuis plusieurs années on a une situation économique très dure, donc on est très prudent, on a peu de dettes, on a du cash, on est très vigilant, etc. Et puis ça fait longtemps qu'on a réduit les dépenses. Donc les entreprises sont plutôt en bonne santé. Simplement, elles ont devant elles une période extrêmement confuse. Établir les budgets 2012, je pense qu'il faut embaucher les cartomanciennes, c'est à peu près la seule solution. Donc c'est vrai que ça crée un climat d'attente. Maintenant, moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est quoi? C'est la crise des dettes souveraines est une crise évidemment très importante. Il ne faut pas se leurrer, elle ne va pas être réglée en 6 mois ou 1 an. C'est Merkel qui a dit avec raison, il va falloir 10 ans. Bon. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que pendant 10 ans, on va être au bord du marasme total. Ce qu'il faut simplement dire, c'est est-ce qu'on est dans la bonne direction? Moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que les États, principalement, cherchent simplement à régler. C'est comme un bateau qui a un trou d'eau. Le trou d'eau, ça serait la dette. Et on cherche simplement à trouver la taille de la pompe pour évacuer l'eau. Mais on ne règle pas le problème de la dette. La confiance, elle reviendra quand? Quand les États auront annoncé clairement, et ça commence par la France aussi d'ailleurs, qu'on est dans la bonne direction pour réduire les dépenses publiques et pour revenir à un budget équilibré. même si ça prend 4-5 ans, parce que bien sûr, personne ne peut régler ce sujet en 6 mois. Mais le jour où on aura le sentiment où les marchés, les entreprises, le monde économique global aura le sentiment que les gouvernements de tous les pays, notamment européens, sont dans la bonne direction, même si elle est longue, là, ce jour-là, la conférence reviendra, parce que sur le fond du terrain économique, globalement, il y a plein de choses à faire en Europe et dans les pays émergents, évidemment.
Est-ce que si on n'a pas la confiance aujourd'hui, les consommateurs vont moins consommer, les entreprises auront du mal à convaincre les consommateurs de venir ?
Les entreprises se tournent encore plus vers l'international, c'est là où est la voie de développement.